Vous écoutez, on lit pour vous.
Accès aux médicaments de spécialité. Connaissez-vous vos droits? Un texte en collaboration avec l'Association des pharmaciens propriétaires, paru le 28 mai 2025 dans le Journal de Montréal. Quand un diagnostic tombe, cancer, maladie rare ou affection chronique, la vie bascule. Entre les rendez-vous médicaux, les émissions à gérer et les démarches à faire, on se retrouve avec beaucoup dans son assiette. Saviez-vous qu'en tant que patient, un droit fondamental vous appartient, celui de choisir librement et sans pression la pharmacie qui vous accompagnera dans votre parcours de soins? Ce droit, inscrit noir sur blanc dans la loi sur l'assurance médicaments et dans le code de déontologie des pharmaciens, est aujourd'hui mis à mal par des pratiques préoccupantes de la part de quelques pharmacies. Aujourd'hui, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, AQPP, souhaite sensibiliser la population à cet enjeu important qui va à l'encontre des intérêts des patients. Des patients détournés de leur pharmacie habituelle. Les médicaments dits « de spécialité », souvent très coûteux et nécessitant un suivi serré, sont de plus en plus répandus au Québec. En 2023, ce marché représentait plus de 1,7 milliard de dollars uniquement pour les patients couverts par la RAMQ. Et la tendance ne ralentit pas. D'ici 2030, il pourrait représenter presque la moitié de l'ensemble du marché des médicaments au Québec. Dans ce contexte, une poignée de pharmacies, en partenariat avec des fabricants de médicaments et leur programme de soutien aux patients, PSP, ont développé des stratégies qui contreviennent aux lois et aux réglementations en vigueur dans la province. Résultat, 40 % de la distribution de ces médicaments est concentrée entre les mains de 6 pharmacies. Comment? En obtenant de la clientèle par le biais d'ententes formelles ou informelles avec un tiers, soit un PSP ou un fabricant, ce qui va à l'encontre des lois et règlements. Les patients sont dirigés vers une pharmacie désignée, souvent située à des centaines de kilomètres de leur domicile. Cette pratique illégale est connue sous le nom de dirigisme. Une pression indue. Lorsqu'un médecin prescrit un médicament de spécialité, le patient n'aura pas toujours la prescription entre ses mains. Il est généralement mis directement en lien avec le PSP, un programme mis en place par le fabricant de médicaments. En théorie, ces programmes visent à gérer le remboursement et l'aide financière pour le patient ainsi que le suivi de la thérapie. Toutefois, dans plusieurs cas, le PSP oriente le patient vers une pharmacie partenaire en lui laissant entendre que l'accès à son médicament sera plus compliqué auprès de sa pharmacie habituelle ou encore qu'il obtiendra un meilleur suivi auprès de la pharmacie désignée. Ce stratagème crée des doutes chez le patient vulnérable qui cherche des réponses et veut commencer son traitement rapidement. Il peut ainsi être difficile de remettre cette recommandation en question. Pourtant, aucun intervenant, ni médecin, ni PSP, ni assureur, encore moins un pharmacien, n'a le droit de lui imposer une pharmacie. Tous les pharmaciens ont les compétences pour servir l'ensemble des médicaments. Il est important de rappeler que tous les pharmaciens et pharmaciennes du Québec ont les compétences, la formation et le droit de pratique pour assurer la distribution et le suivi des médicaments de spécialité. Qu'ils pratiquent en milieu urbain ou rural, dans une pharmacie affiliée à une grande chaîne ou dans une petite pharmacie indépendante, ces professionnels de la santé sont qualifiés pour évaluer les traitements, détecter les effets indésirables et ajuster la médication aux besoins, quelle qu'elle soit. Bref, elles peuvent faire un suivi complet et en continu des thérapies de leurs patients. En vous faisant servir l'ensemble de vos médicaments par votre pharmacien habituel, vous êtes en mesure de poser vos questions à une personne de confiance et accessible qui maîtrise l'ensemble de votre dossier. Si vous recevez un médicament de spécialité provenant d'une autre pharmacie, ou si on vous incite à aller vers une pharmacie autre que la vôtre pour obtenir un traitement, il est important d'en informer votre pharmacien habituel. Ceci est particulièrement important afin de faciliter l'analyse sécuritaire du dossier, notamment pour la vérification des interactions médicamenteuses et l'efficacité de vos médicaments courants. Un enjeu d'accès à l'élargissement des soins. Derrière ce débat repose également un enjeu plus large, la pérennité du modèle québécois des pharmacies communautaires. Présentes partout sur le territoire, les quelques 1900 pharmacies de proximité constituent un pilier essentiel de la première ligne en santé dans toutes les communautés du Québec. Le gouvernement doit agir pour faire respecter et appliquer ses propres lois et règlements. Il en va non seulement du droit des patients, mais aussi de l'intégrité du système de santé. En tant que patient ou proche aidant, vous avez un rôle à jouer. La première étape est de vous informer. Vous avez le droit de poser des questions. Et surtout, vous avez le droit d'être accompagné du début à la fin par un professionnel de proximité qui connaît votre réalité et votre état de santé dans son intégralité, votre pharmacien ou pharmacienne de quartier. Vous avez le droit de choisir votre pharmacie. C'était « Accès aux médicaments de spécialité. Connaissez-vous vos droits? » Un texte en collaboration avec l'Association des pharmaciens propriétaires, paru le 28 mai 2025 dans le Journal de Montréal.
Partir ou rester? Parler ou se taire? Les dilemmes de la communauté LGBTQ+ au Sahel. Un texte de R. Pratka, paru le 25 août 2025 dans le magazine Fugue. On ne peut pas révéler son vrai nom, ni dire où elle vit, ni nommer l'organisme qu'elle dirige ou ses partenaires internationaux. Mais Soleil, nom d'emprunt, a trouvé un moyen de nous raconter une partie de son histoire, tout comme elle et ses collègues trouvent des moyens d'aider des membres de la communauté LGBTQ+ en Afrique de l'Ouest, où de nombreux pays criminalisent les relations homosexuelles. Soleil était de passage à Montréal en août pour participer à la conférence internationale d'Égide, qui a réuni des militants, militantes et des chercheurs engagés dans la communauté LGBTQ+ francophone. Ici, on célèbre Fierté et le drapeau arc-en-ciel flotte devant plusieurs bâtiments publics, une image impensable dans les pays où travaille Soleil et plusieurs autres participants-participantes. Au Mali, par exemple, non seulement les relations sexuelles entre personnes du même sexe sont illégales, mais toute personne qui fait la promotion ou l'apologie de l'homosexualité, en public ou en privé, risque jusqu'à 7 ans de prison et une amende de 500 000 francs CFA, un peu plus de 1 200 $, soit l'équivalent du revenu annuel médian du pays. Soleil, qui se décrit comme membre de la communauté, a commencé son implication en 2011. À l'époque, selon elle, il y avait une certaine liberté de parole. Une travailleuse du sexe, une personne vivant avec le VIH, une membre d'une minorité sexuelle ou une employée d'un organisme communautaire œuvrant auprès de ces populations pouvait s'exprimer relativement ouvertement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Au Burkina Faso, l'homosexualité a été interdite en 2024, peu avant son bannissement au Mali. En Côte d'Ivoire, les personnes LGBTQ+ ne vivent pas dans l'illégalité, mais font face à des discriminations et à des manifestations homophobes parfois violentes, les forçant à fuir leur domicile. Elles subissent de la discrimination en emploi et dans l'accès aux soins de santé. Beaucoup sont rejetés par leur famille ou emprisonnés sous de faux prétextes, raconte Soleil. Pour certaines, la migration clandestine vers l'Europe devient la seule porte de sortie. Son organisation travaille sur les questions de santé sexuelle, de défense des droits et d'accès aux services. Surtout, elle bâtit une communauté pour des personnes qui ont perdu la leur. C'est important que les gens se sentent en sécurité dans notre organisation, qu'ils se sentent écoutés, qu'ils aient l'impression d'être en famille. L'impossibilité de parler ouvertement d'homosexualité dans certains contextes rend le travail de Soleil et de ses collègues particulièrement délicat. Nous essayons de nous conformer aux politiques pour éviter toute confrontation. Nous ne pouvons plus parler de nous-mêmes comme avant, mais nos activités continuent et notre porte est ouverte, explique-t-elle. La communauté LGBTQ+ locale est petite et tout le monde se connaît. Les gens se disent « N'hésite pas à aller à tel endroit, ils pourront t'aider ». Le groupe trouve aussi des alliés, avocats, professionnels de la santé, fonctionnaires, parfois dans des lieux inattendus. Certains fonctionnaires nous ont même suggéré la terminologie à utiliser dans notre documentation pour rester conforme aux lois. Malgré leur débrouillardise, des organisations comme la sienne ont besoin de financement et de soutien extérieur pour survivre. Soleil est venu au Canada, en partie, pour demander de l'aide. Avec le départ des bailleurs de fonds, avec la fermeture de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international, qui finançait des ONG dans plus de 60 pays et qui a été fermée par l'administration Trump en 2025, il y a peu de chances que certaines organisations puissent continuer à vivre et à servir la communauté dans 2 ans. Soleil est une personne résiliente et instruite, avec une formation variée, des contacts internationaux et, fait rare, une famille qui soutient et comprend son engagement. Elle pourrait partir, comme l'ont fait certains de ses compatriotes, mais ce n'est pas dans ses plans. Si je pars, l'organisation ferme. Qui offrira les services à la communauté? Si tout le monde part, qui restera? Partir n'est pas la solution. Il faut continuer à se battre. C'était « Partir ou rester ?» Parler ou se taire? Les dilemmes de la communauté LGBTQ+ au Sahel. Un texte de R. Pratka, paru le 25 août 2025 dans le magazine Fugue.
Les feux de forêt ont nui au secteur du tourisme au Canada cet été. Un texte de Lauren Krugel, de la presse canadienne, paru le 1er septembre 2025 dans Le Devoir. Jasper, en Alberta, accueille moins de touristes que d'habitude en 2025. Mais ce n'est pas faute de personnes désireuses de visiter cette pittoresque ville des Rocheuses. Les chiffres sont à peu près au meilleur de leur forme, sachant qu'environ 1/5 des hébergements de la ville a été détruit par un violent incendie de forêt à l'été 2024, a déclaré Tyler Riopel, PDG de Tourisme Jasper. Il y a à peu près autant de visiteurs à Jasper en l'été 2025 que nous avons d'hébergements, donc c'est une victoire, a-t-il affirmé. Nous constatons une baisse globale du nombre réel de visiteurs de 16 à 20 et ce chiffre est entièrement attribuable à la perte d'hébergements à toit fixe et de terrains de camping. Les places disponibles sont presque toutes occupées, a indiqué M. Riopel, ajoutant que la pénurie devrait perdurer jusqu'à l'été 2026, puisque la reconstruction de la ville se poursuit. Les visiteurs semblent dépenser moins lorsqu'ils sont en ville, dans les boutiques et les attractions. Mais M. Riopel ne sait pas si cette tendance est généralisée. Il y a encore beaucoup à faire dans le parc national, a-t-il souligné. Cela comprend plus de 1000 kilomètres de sentiers de randonnée, du rafting en eau vive, la télécabine SkyTram, le terrain de golf et des croisières sur les eaux turquoises du lac Maligne. Jasper est un endroit fascinant en ce moment. Parc Canada a travaillé très fort pour s'assurer que quelques forêts touchées par les incendies soient accessibles à pied, a affirmé M. Riopel. Bien que l'été soit la haute saison touristique à Jasper, M. Riopel a déclaré que l'hiver sera également important, car les gens viendront pour le ski et d'autres activités hivernales. Plusieurs provinces touchées. Alors que la reprise économique de Jasper se poursuit, les exploitants touristiques touchés par les incendies de forêt ailleurs cette année
sont en difficulté. Le nord de la Saskatchewan et le nord du Manitoba ont été particulièrement affectés, ce qui a eu des répercussions sur les pourvoiries qui s'adressent aux chasseurs et aux pêcheurs. Roy Anderson, PDG par intérim de la Commission des pourvoyeurs professionnels de la Saskatchewan, a indiqué que son groupe interrogeait ses membres afin de quantifier l'impact financier. « On parle de millions de dollars de pertes de revenus, au minimum », a-t-il rapporté. De nombreuses entreprises servent un petit nombre de clients réguliers, principalement des Américains, prêts à dépenser des fortunes pour chasser le gros gibier. Ces clients réservent longtemps à l'avance, ce qui oblige les exploitants à acheter des fournitures et à recruter du personnel à l'avance, ce qui laisse peu de marge de manœuvre en cas de perturbations imprévues. Au début du printemps 2025, M. Anderson a affirmé que les inquiétudes portaient principalement sur les tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis et leurs répercussions sur le tourisme transfrontalier. L'impact n'a peut-être pas été aussi important que prévu, a-t-il indiqué. Et puis, nous sommes entrés directement dans la réalité des feux de forêt. Les incendies à proximité d'un camp ou d'une zone de chasse nécessiteraient bien sûr l'annulation des excursions pour des raisons de sécurité. Toutefois, même dans les zones non touchées, les fermetures d'autoroutes, les perturbations du trafic aérien et les interdictions de circulation des véhicules tout-terrain ont eu des conséquences importantes, a précisé M. Anderson. Il appelle à une discussion avec les représentants du gouvernement sur la manière de gérer plus proactivement la menace d'incendie à l'avenir. Nous savons que cette année pourrait être unique, mais elle pourrait ne pas l'être, a-t-il soutenu. M. Anderson a indiqué que le gouvernement pourrait reconsidérer la portée des interdictions de véhicules tout-terrain en accordant peut-être des dérogations aux exploitants commerciaux ou dans certaines zones. Les étincelles qui se dégagent des véhicules peuvent déclencher des incendies lorsqu'une forêt est extrêmement sèche. Tourisme Saskatchewan en évalue encore l'impact. À titre indicatif, certains exploitants ont subi des pertes, tandis que la plupart sont restés pleinement ouverts. Outre les incendies eux-mêmes, les alertes d'évacuation et les fermetures d'autoroutes ont contribué aux perturbations, notamment aux annulations et à la réduction du trafic touristique dans certaines régions, a déclaré Alexa Lawlor, porte-parole de l'agence provinciale, dans un courriel. De nombreux établissements d'hébergement ont œuvré pour fournir un abri d'urgence aux personnes évacuées et aux pompiers, et nous sommes profondément reconnaissants de leur contribution. Des impacts sur le tourisme autochtone. L'Association touristique autochtone du Canada a appris de ses membres que l'été a été particulièrement difficile, a indiqué Keith Henry, directeur général de l'organisation. Les effets se sont fait sentir partout au pays. Certains visiteurs ont annulé leurs visites pour éviter que la fumée des feux de forêt ne gâche leur expérience. La fermeture complète des zones sauvages du Canada Atlantique a entraîné une chute brutale des activités commerciales. Les exploitants du nord du Manitoba s'attendaient à une année vraiment exceptionnelle, a déclaré M. Henry. Toutefois, leur activité a chuté de 30 % a-t-il souligné. Les feux de forêt n'ont cependant pas été le seul défi. Les interruptions de travail chez Air Canada ont également incité des touristes potentiels à reporter leur voyage. Le tourisme est un moteur économique majeur pour les communautés autochtones, a ajouté M. Henry. Le tourisme autochtone est bien plus qu'une question d'économie. C'est une revitalisation culturelle. C'est de l'emploi local. Il aide les familles et les artistes, a déclaré M. Henry. Nous ne voulons pas perdre confiance en ce que nous essayons de construire et en ce que nous construisons depuis de nombreuses décennies. Nous allons continuer à travailler d'arrache-pied pour assurer sa survie et son épanouissement. Il nous faut simplement trouver comment nous adapter à ces facteurs externes qui semblent avoir de tels impacts en aval sur nous. C'était « Les feux de forêt ont nui au secteur du tourisme au Canada cet été ». Un texte de Lauren Krugel de la Presse canadienne, paru le 1er septembre 2025 dans Le Devoir.
Pas de sel, pas d'heure. Des ados ne savent plus comment lire l'heure sur des horloges à aiguilles. Un texte de Daphné Dionvien, paru le 9 septembre 2025 dans Le Journal de Montréal. Des ados privés de leur cellulaire pendant la journée d'école doivent s'en remettre aux bonnes vieilles horloges pour ne pas arriver en retard en classe, mais plusieurs ne savent pas comment lire l'heure avec des aiguilles. Citation : On savait que les jeunes avaient de la difficulté à lire l'heure sur les horloges. Mais c'est vraiment le constat qui ressort le plus de l'interdiction du cellulaire. Fin de citation, lance Sylvain Duclos, qui enseigne les mathématiques dans une école secondaire de la rive sud de Québec. Très actif sur les réseaux sociaux, M. Duclos a voulu savoir comment se vit l'interdiction du cellulaire dans les écoles québécoises depuis la rentrée. Une publication sur le sujet lui a valu des centaines de commentaires permettant de prendre le pouls de ce qui se passe dans plusieurs écoles aux quatre coins de la province. Une notion vite oubliée. Règle générale, les élèves ont appris à lire l'heure sur une horloge à aiguille au début du primaire, avant la troisième année, mais il s'agit d'une notion vite oubliée s'ils n'ont pas l'occasion de la mettre en pratique par la suite, explique Sylvain Duclos. Citation. On avait déjà remarqué que c'était très laborieux chez les élèves. Fin de citation. Un enjeu qui remonte à bien avant la pandémie, précise-t-il. Rien de surprenant, puisqu'avec l'omniprésence des cellulaires et des ordinateurs portables dans plusieurs écoles, les élèves ne s'exerçaient jamais à moins d'avoir une horloge ou un cadran à aiguilles à la maison, souligne l'enseignant. Depuis la rentrée, des profs ont donc décidé de prendre quelques minutes en classe pour réviser ces petites notions de base avec leurs élèves, ce que prévoit aussi faire Sylvain Duclos dans les prochains jours. Il n'y a par ailleurs pas assez d'horloges dans les corridors des écoles secondaires, ajoute l'enseignant. Résultat, même les élèves qui peuvent déchiffrer les aiguilles craignent d'arriver en retard en classe. Citation. On a des élèves qui sont plus à l'heure dans nos cours. Fin de citation, se réjouit Sylvain Duclos. Avant, les élèves attendaient à la toute dernière minute avant de se présenter en classe, puisque le cellulaire leur permettait de connaître l'heure à la minute près, alors qu'ils arrivent maintenant plus tôt, ne sachant plus trop exactement quelle est l'heure précise pendant la pause. Un virage qui se passe bien. De manière générale, les nombreux commentaires reçus permettent aussi à Sylvain Duclos d'affirmer que l'interdiction du cellulaire dans les écoles secondaires québécoises se passe plutôt bien dans une majorité d'établissements depuis la rentrée, surtout dans les écoles où les élèves doivent ranger leur cellulaire dans leur casier. Plutôt que d'être rivés à leur écran, plusieurs ados renouent avec le ping-pong, le baby-foot et les jeux de société pendant l'heure du dîner, alors que d'autres discutent et rigolent entre eux. Des élèves participent même davantage aux échanges en classe, rapportent plusieurs enseignants qui s'en réjouissent. C'était « Pas de sel, pas d'heure, des ados ne savent plus comment lire l'heure sur des horloges à aiguilles ». Un texte de Daphné Dionvien, paru le 9 septembre 2025 dans Le Journal de Montréal.
Zoom sur Claude Vézina. un texte d'Anita Barsetti de l'Itinéraire paru le 20 septembre 2025 dans la presse. Claude Vézina, numéro de Camelot, 2258, âge 74 ans. Point de vente, Saint-Zotique-Saint-André. Le riche a besoin du pauvre. Le pauvre n'a pas besoin du riche. C'est ainsi que Claude initie la discussion. Ses paroles sont empreintes de sagesse et de rébellion, oscillant entre le discours enflammé et la poésie engagée. Avec son chapeau de paille et sa canne, il a des airs aristocratiques. Natif de Rimouski, il est le 11e d'une famille de 12 enfants. Il se démarque très jeune par sa force de caractère et son hyperactivité. Le plus grand drame de sa vie est d'avoir été placé dans un pensionnat à l'âge de 6 ans. Le choc de la séparation a été tellement brutal qu'il s'est mis à bégayer. Toute sa jeunesse, il fera face à de la discrimination et à des moqueries jusqu'à ce qu'il s'inscrive à un cours d'annonceur où il apprendra les techniques pour arrêter de bégayer et acquérir de la confiance. Il avait alors 24 ans, et aujourd'hui, c'est à peine si l'on perçoit quelques soubresauts dans son élocution. Ses métiers ont été multiples. Photographe, éditeur, palefrenier, cuisinier à la garde côtière et chez les religieuses, vendeur, serveur, homme de ferme, préposé aux bénéficiaires. Il les a tous pratiqués avec passion. Si ma vie était à refaire, je serais archéologue ou anthropologue, affirme Claude Vézina. On pourrait le qualifier d'explorateur de l'humanité. Il dit être capable de tout. Conduire une voiture, une moto, ramasser des choux, des navets, brasser le fumier, accompagner des personnes en fin de vie, laver des corps à la morgue, coucher sur les bancs de parc, ceux du parc Laurier, et tout cela avec classe et dignité. C'est un homme exceptionnel. N'hésitez pas à aller le saluer. Son regard bien planté dans le vôtre, il vous racontera ses anecdotes entrecoupées d'envolées philosophiques, d'opinions politiques, de son aversion envers la bêtise humaine. Vous voudrez rester dans ses récits pendant des heures. Bienvenue dans l'équipe, Claude, alias le rebelle raffiné, comme il se plaît à se qualifier. C'était Zoom sur Claude Vézina, un texte d'Anita Barsetti de l'Itinéraire, paru le 20 septembre 2025 dans La Presse.